Avant de commencer, une courte publicité pour vous présenter notre sponsor pour cette saison, Elinoy. Elinoy, c'est un incubateur qui aide chaque talent à trouver le job de ses rêves. Notre histoire commune y a commencé il y a bien longtemps, quand j'ai tendu mon micro à Héloïse pour décrypter ensemble le métier de sales. C'est donc naturellement que je les ai associés à cette saison. Pour trouver son premier job, il y a généralement deux catégories de personnes. Ceux qui ne savent pas du tout et qui postulent partout, et ceux qui font sans prendre le temps de regarder les autres options. Dans les deux cas, ils finiront souvent par le regretter. Elinoy parle à ses profils tous les jours. Ils ont développé un accompagnement qui permet de garder le meilleur des deux mondes, s'ouvrir à des pistes que l'on n'aurait pas considérées soi-même, tout en économisant son énergie pour postuler uniquement à des postes qui nous ressemblent vraiment. L'accompagnement est complètement gratuit et personnalisé. Vous aurez un talent manager dédié qui va vous coacher, vous former, vous proposer des offres de job et vous accompagner pour réussir vos entretiens et négocier votre salaire. Bref, il va vous donner tous les conseils pour prendre une bonne décision. Vous pouvez directement vous inscrire sur leur site elinoy.com ou pour les plus fémards, je vous laisse le lien en description du podcast. Allez, la pub est finie, profitez bien de cet épisode.
Propulsé par Vocation.
Je suis Jasmine Manet, bienvenue sur Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Quand Jean-Philippe m'a contactée, il m'a écrit, je cite, « Fort de mon expérience scolaire, qui n'a pas été un parcours de réussite, j'ai malgré tout exercé mes différents métiers avec passion, à commencer par le premier d'entre eux, Géo Club Med, spécialité ingénieur du son. Et pour nos trois enfants, je n'ai qu'un argument et une priorité, les aider à exercer un métier par passion sans avoir aucun jugement de quelque nature que ce soit sur leur choix. Nous nous sommes appelés pour faire connaissance et là, c'était le coup de cœur absolu. Je voulais absolument vous partager mon enthousiasme en lui tendant mon micro. Alors ni une ni deux, on s'est retrouvés au studio d'enregistrement et voilà le résultat. Un épisode qui nous propose un regard frais sur le travail, sur la passion, sur la réussite. Pour ne jamais suivre les autres, mais s'écouter soi, une philosophie qu'il a apprise à travers ses différentes carrières, comme vous l'avez vu de Géo Club Med en tant qu'ingénieur du son, à consultant indépendant aujourd'hui, et qu'il a voulu transmettre à ses enfants. Alors je vous en dis pas plus, et si vous souhaitez poursuivre nos échanges, rendez-vous sur Instagram, @vocation.co, et parlez-en autour de vous, c'est vraiment ce qui nous aide le plus pour le podcast. Allez, je vous laisse avec Jean-Philippe, bonne écoute. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Jasmine.
Alors je suis vraiment contente qu'on soit là aujourd'hui, il fait super beau dehors, j'avais vraiment hâte de ce moment. Mais avant qu'on parle de toi, enfin on va parler de toi directement, mais j'ai une petite question préliminaire. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant ?
Quand j'étais enfant, j'adorais me balader en montagne. Enfin mes parents m'emmenaient pour faire des promenades en montagne, dans les Alpes. Et à chaque fois que je voyais un ruissellement d'eau, je voulais faire un barrage.
Génial.
Voilà. Et de là est né mon souhait de rentrer dans une voie de la construction, du bâtiment, du métier d'architecte. Mais ça, c'est une autre histoire.
On va y venir tout de suite. Peut-être avant de me raconter ton parcours, et on va remonter assez loin à tes premiers choix académiques, scolaires et puis professionnels après. Si tu pouvais juste te présenter en quelques mots pour commencer.
Alors, je suis consultant formateur indépendant depuis une vingtaine d'années. Préalablement, j'ai été salarié en tant que commercial dans une entreprise. Et encore avant, j'ai été GIO au Club Méditerranée. Depuis 20 ans que je suis consultant indépendant, je suis concentré sur la formation, sur les usages du numérique. Et au départ, j'ai commencé par une formation sur Outlook pour être efficace et organisé avec Outlook. Alors, ça avait un titre un petit peu original qui m'a donné une certaine visibilité et puis une originalité, pas seulement sur le titre, mais sur le fond, puisque c'était centré sur l'organisation du travail, la gestion du temps, enfin, tout ce qui est autour de ça. Et puis, j'ai... Par affinité avec le numérique, j'ai décliné d'autres formations qui font que j'interviens dans plusieurs domaines. C'est un des traits de ma particularité.
Génial. Et tu as grandi à Paris, tu es parisien ?
Alors, je suis Montbéliardais.
Montbéliardais.
Voilà. Tout simplement parce que mon père a commencé sa carrière chez Peugeot. Et je suis venu, ma famille a déménagé à Paris quand j'avais à peu près 6 ans.
D'accord, super clair. Bon, bah venons-en... Du coup, à ton parcours, on va creuser un peu ça ensemble. Est-ce que tu peux me replonger à la personne que tu étais au collège, lycée, au moment où il fallait faire ses premiers choix un petit peu importants, peut-être, ses premiers choix académiques qui nous touchent tous, après le bac notamment. Tu me parlais de velléité d'architecture. Est-ce que tu peux m'en dire plus si on se replonge à l'époque de ces choix-là ? Toi, ce que tu ressentais déjà en tant qu'étudiant, et puis comment t'as mené un peu ces premiers choix à ce moment-là ?
Alors, très sincèrement, jusqu'au collège, j'avais pas de réflexion sur mon avenir, c'est ma normal. Carrière. par contre, j'étais un gamin joueur, je pensais plus à m'amuser qu'à travailler. Et j'ai compris plus tard pourquoi. J'avais moins d'affinité avec l'école qu'avec le jeu. Tout simplement parce que j'adorais jouer aux billes, monter aux arbres, parcourir la forêt de Saint-Germain-en-Laye, puisque j'habitais Saint-Germain-en-Laye, où j'ai fait les 400 coups. Et puis, il faut savoir que je suis né donc en 56 et je suis rentré au collège en 68.
Ah oui.
Période zone de turbulence, s'il en est. Je suis devenu, ou j'ai été par nature, un peu rebelle. Et quand j'ai fait mes études, je me souviens surtout du collège, enfin de ma dernière classe de primaire, où j'ai eu un professeur absolument extraordinaire, qui m'a marqué. Et puis mes années de collège, où j'avais du mal à comprendre certaines matières. Et c'est ce qui fait que j'aimais pas l'école, en fait. Je faisais un rejet de l'école, je préférais les travaux manuels. Tout simplement parce que certaines matières, je ne les comprenais pas. Et j'avais besoin de matérialiser ce qu'on m'expliquait. Que ce soit le français, l'histoire ou les mathématiques, pour prendre trois matières que j'ai rejetées à cette époque. Le français, parce que je savais lire et écrire, et pour moi ça me suffisait. Décortiquer un texte, je ne voyais pas l'intérêt. Concernant les mathématiques, je me souviens d'une grosse douleur, si je puis dire, qui était les maths modernes, avec les ensembles inclusifs, exclusifs. Je ne comprenais strictement rien. Je voyais
ça
ne
me rappelle rien.
Et à partir du moment où j'ai fait du marketing et j'ai dû faire du ciblage marketing avec des méthodes booléennes, ben là j'ai tout compris en fait. Mmh. Et je me suis aperçu avec le recul que quand on m'expliquait ces matières que je ne comprenais pas, c'est parce qu'on ne savait pas, les professeurs ne mettaient pas en face des cas appliqués qui me permettaient de comprendre. Et ça a eu une très grande influence sur ma façon de former les gens, sur mon approche pédagogique. Je suis très soucieux, quand je forme les gens, qu'ils comprennent pourquoi je les forme sur telle fonction ou sur telle façon de travailler avec son ordinateur ou avec telle ou telle application. Parce que si on ne connaît pas, si on ne comprend pas la finalité, on est moins motivé pour bien acquérir une nouvelle façon de travailler.
Donc, super intéressant, ça, ce besoin de concret qui finalement on retrouve tous, hein, puisque ça explique. Bon, moi, je l'ai vécu peut-être moins tôt, mais j'étais une bonne élève sous toute couture. Ça m'allait très bien, la théorie. Mais c'est aussi ce qu'on vit beaucoup quand on choisit une classe préparatoire et que du coup, on est habitué à des discours plutôt théoriques et qu'on arrive, en l'occurrence pour ma part, c'était en école de commerce, mais où du coup, cette confrontation des mondes qui ne se sont jamais côtoyés auparavant. Ça implique pour beaucoup une grande déception en fait en arrivant en école, parce qu'on comprend plus en fait de quoi on parle, aussi parce qu'il y avait aucun lien dans l'autre sens. En fait, c'est juste la concrétisation pratique de tout ce qu'on a vu auparavant et du coup qui crée ce décalage qui s'est amplifié en plus avec les années. Du coup, je comprends complètement, mais moi j'étais de l'autre côté.
C'est vrai que quand on sort de l'école et qu'on rentre dans le monde professionnel, quel que soit le métier que l'on fait, ça fait une transition qui est très forte et surprenante, pour le moins. On découvre le monde, d'une certaine façon.
Complètement, complètement. Alors, du coup, au moment de choisir du coup, ton école, est-ce que tu as justement eu à cœur de choisir une école post-bac qui très concrète? Comment est-ce que tu as fait ces premiers choix-là, du coup, compte tenu de l'école qui ne se passait pas forcément au mieux, en tout cas, que tu ne comprenais pas forcément ce qu'on t'enseignait, c'est-à-dire l'utilité plutôt que comprendre en tant que tel?
Alors, j'ai choisi une voie où les travaux manuels, alors pas tant les travaux manuels, mais la finalité de ce que j'allais apprendre était matérialisable. Comme je te l'ai dit, quand j'étais gamin, j'aimais construire des parages. J'ai pris la voie des travaux publics et du bâtiment. Alors j'étais au collège, d'année en année, je passais toujours limite, j'étais borderline au niveau de mon niveau scolaire. Et donc quand je suis rentré en seconde, je suis allé à l'école, de Vincennes, à l'école des Gletons, du bâtiment des Gletons. Et là j'étais interne, je revenais tous les mois et demi, et là ça a été une douleur terrible parce que les autochtones ne supportaient pas les Parisiens, on était 4 ou 5 Parisiens, on était pris en grippe. Donc il y a eu un double défi, difficulté scolaire plus intégration sociale difficile, malheureusement.
Ok, donc difficile de s'intégrer, mais est-ce que la matière en elle-même, ton travail, ton application, est-ce qu'elle te plaisait?
Le manque d'affinité avec mes études ne s'est pas révélé tout de suite dans ma première seconde. J'ai redoublé ma première seconde.
D'accord.
Parce que là, j'étais vraiment un garçon turbulent. J'étais un électron libre. Je vais passer le détail sur toutes les bêtises que j'ai faites.
Ce sera pour une autre conversation.
Voilà. Et donc, j'ai redoublé ma seconde. Donc, j'ai fait une seconde à l'EBTP de Vincennes. Et là, je n'ai pas du tout eu les affinités parce que j'étais dans une spécialité qui était les techniques industrielles, études de prix, en clair, le métré. C'est-à-dire que quand on construit une maison, il faut compter le nombre de briques que l'on va mettre, que l'on va devoir acheter pour construire la maison. Plus quantifier la quantité de travail, ainsi de suite. Donc ça s'appelle le métré. Aujourd'hui, c'est fait par informatique, mais à l'époque, c'était fait à la mano avec la règle à calcul. Et donc là, dégoût total, et puis simultanément, une passion pour tout ce qui tournait autour de l'audiovisuel, et plus particulièrement de la prise de son, qui était ma passion, et j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui m'a trouvé le moyen de faire un stage. Alors un stage, c'était plutôt un mois de découverte du métier d'ingénieur du son à Europe numéro 1.
Génial! Et alors, c'était comment?
Ben là, ça a été le coup de foudre. Et puis, dans la foulée, à la fin de ma seconde, j'ai annoncé à mon cher père que les études, ça ne me plaisait plus, je voulais m'arrêter. Sans savoir où je voulais aller, d'ailleurs. Ça a été un choc pour lui, parce qu'il rêvait de faire que ses trois enfants soient ingénieurs comme lui. Et malheureusement, pour moi, en tous les cas, ça n'a pas été le cas. Mais il a eu la lucidité de ne pas refuser mon choix, de me dire, on était en situation conflictuelle un petit peu à l'époque, de me dire, de me faire trois recommandations qui m'ont marqué au point que je m'en souviens encore aujourd'hui. La première, c'est fais ton service militaire, comme ça, ça sera une affaire réglée. Passe ton permis de conduire, parce que quel que soit le métier que tu fais, ce que tu feras, c'est indispensable. Et troisième conseil, quel que soit le métier que tu fasses, fais un métier qui te plaît, que tu sois boucher, ingénieur, ce que tu veux, commercial, fais un métier que tu aimes.
Génial! Un des très beaux conseils. Donc, tu as passé ton permis, tu as fait ton service militaire.
Exactement.
C'est déjà au moins ça, il faut le travailler, faire ce qu'on te demande et après, c'est bon.
Alors, pour l'anecdote, j'ai fait mon service militaire à Tahiti, en Polynésie.
Ah, génial.
J'étais un petit peu pistonné. En fait, non, c'est mon cher père qui a fait ça à l'insu de mon plein gré. Tout simplement parce que j'étais tellement rebelle qu'il fallait créer une rupture dans le lien père-enfant, enfant-parent. Et il a trouvé le moyen de faire que je fasse mon service militaire à Tahiti, ce qui m'a beaucoup plu d'ailleurs. Hein. C'était un très bon choix, je ne regrette pas. Mais ça nous a fait le plus grand bien en fait, ce break de 9 mois. Et j'ai découvert la Polynésie et là aussi j'en garde des souvenirs extraordinaires. Et c'est là, en Polynésie, que j'ai trouvé le moyen de faire le métier qui me passionnait, c'est-à-dire le métier d'ingénieur du son. Je suis allé un moment, je faisais mon service militaire très précisément sur l'atoll de Hao. Et tous les 2 mois, avec un copain, on prenait une dizaine de jours de vacances, parce que c'était le modèle classique pour les appeler. Et on allait découvrir différentes îles en Polynésie. On est allé à Bora Bora. Et à Bora Bora, à l'époque, il n'y avait qu'un hôtel ou deux hôtels, dont le Club Méditerranée. On est allé dîner un soir au Club Méditerranée, alors qu'on logeait chez l'habitant. On avait quelque chose qui n'était pas très cher. Je discute avec le chef de village. Puis à bâton rompu, je lui dis que j'aimerais bien être ingénieur du son. Et là, il me révèle qu'au Club Méditerranée, dans tous les villages, il y a des ingénieurs du son, ils en ont besoin. Et il m'a donné le nom de la personne qu'il fallait que j'aille voir au Club Méditerranée pour proposer mes services et me faire embaucher par le Club Med. Et de fil en aiguille, je suis rentré au Club Med.
Et du coup, tu en as fait... comment ça s'est déroulé? C'est quoi être embauché au Club Med? Enfin, moi, j'y suis jamais allée, donc j'ai peut-être une vision rêvée.
Alors, la vision qu'on en a...
Passer des vacances au Club Med, mais
la vision qu'on peut en avoir quand on connaît pas le Club Med, c'est la vision du film Les Bronzés.
Oui, complètement.
Qui est une bonne caricature, mais qui n'est pas à la bonne échelle, parce qu'un village du Club Med, c'est entre 100 et 150 personnes salariées. Avec les géos et tout le personnel technique. Donc le film des Bronzés, il y a 4 ou 5 géos, une dizaine de géos, donc on n'est pas à la même dimension. Mais en tous les cas, c'est une école de la vie, mais alors absolument exceptionnelle. Pour plusieurs raisons. D'une part, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par plaisir, tellement le cadre est idyllique. On n'est pas dans le raisonnement où je travaille, en fait. On s'amuse tous, hein, quelle que soit l'activité que l'on ait. Et puis... on a une relation sociale. Alors à l'époque, on ne parlait pas de relation sociale. Il y a une camaraderie avec les autres géos qui fait que on vit dans une grande famille. Et puis les GM, ils changent toutes les semaines. Et accessoirement, point important, l'époque où j'y étais, c'était avant le SIDA. Le Club Med était la plus grande agence matrimoniale qui soit. Ce n'est pas sans raison que j'y ai rencontré ma femme.
Ah, voilà. Et du coup, tu es resté à Tahiti
Alors, en fait, non. Quand j'ai fini mon service militaire, je suis rentré à Paris. D'accord. Je suis allé voir au club, frapper à la porte du club Méditerranée.
Ok, si tu n'avais pas encore commencé.
J'avais pas encore commencé. Je suis allé voir donc, le club à Paris, place de la Bourse. J'ai fait la démarche, je passe sur les détails, mais j'ai fait la démarche pour postuler. Et j'ai été embauché et j'ai travaillé pendant 5 ans dans différents villages du club Méditerranée en tant qu'ingénieur du son.
Du coup, tu as dû beaucoup voyager aussi.
Pas mal, pas mal. Et ça, c'est l'autre volet qui est extraordinaire au club Méditerranée, c'est qu'on est dans un monde qui est très multiculturel. D'une part, du fait qu'on va travailler tantôt en France, en Italie, au Maroc, en Turquie, aux États-Unis, aux Bahamas, ainsi de suite. Et tout le personnel est très cosmopolite, en fait.
Bien sûr.
Et ça nous ouvre l'esprit, c'est de façon assez extraordinaire. Et ça, quand on fait cette école du club Méditerranée, quand je dis école, c'est...
J'ai compris.
Ce passage dans la vie professionnelle, ça nous ouvre les chakras de façon extraordinaire. Et toutes les personnes qui ont fait quelques années au club Méditerranée, voire qui ont fait la totalité de leur carrière, ont été marquées par cette expérience.
C'est sûr. Et d'un point de vue vraiment technique, du coup, tu découvres, tu fais vraiment le métier d'ingé son à ce moment-là professionnellement.
Voilà. Je fais le métier d'ingénieur du son avec la piscine à 20 mètres. Si je fais 500 mètres, je vais dans le lagon faire de la plongée sous-marine pour aller pêcher les langoustes. Enfin bon, c'est le cadre, c'est le paradis sur terre, quoi.
Et toujours le même amour pour le métier d'ingé son.
Toujours le même amour, la même passion. Jusqu'à ce que je rencontre ma femme, et puis ben, à un moment on s'est dit on va se marier, et puis quand on se marie, là, il faut savoir ou pas, après chacun le fait comme il l'entend, mais on a souhaité, les circonstances ont fait qu'il était préférable qu'on change de vie et qu'on rentre dans la vie métropolitaine, et là la transition a été difficile.
Ah, je comprends, et du coup comment t'as ajusté ta vie professionnelle en fonction ?
Alors, j'ai candidaté pour un poste de technico-commercial en informatique. À l'époque, l'informatique, c'était balbutiant. Mmh. On cherchait des spécialistes de l'informatique, il n'y en avait pas parce qu'on ne formait pas au métier de l'informatique. Donc, on prenait les tout-venants. Et puis, comme j'avais une culture électronique, l'entreprise qui m'a embauché s'est dit, bon, il a déjà...
On fait le pari.
Il a des qualités qui vont bien, donc on va le former. Et là, par contre, j'ai dû découvrir ce que c'était que le commerce, ce que c'était que l'informatique. Ça a été très difficile, mais j'ai remonté les manches et j'y suis arrivé.
Génial. Et du coup, tu as fait ça, tu m'as dit, 5 ans ?
Alors, j'ai été à différentes fonctions commerciales et responsable marketing pendant une vingtaine d'années.
Ah oui, vingtaine d'années.
Voilà. En fait, sur le cycle de cette carrière, au-delà des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, la fonction marketing m'a vraiment passionné.
Et ça m'intéresse qu'on continue avant d'aller sur du coup ton nouveau métier, qui est celui de consultant formateur. C'est ce rapport passionné à son travail. Moi, c'est un sujet que je traite beaucoup dans le podcast. Est-ce que on devrait faire de sa passion son travail ? Est-ce que c'est fait pour tout le monde ? Est-ce que en fait, ça dénature pas une passion de faire en tant que métier, en tant que travail rémunérateur à proprement parler ? Et les réponses, je pense pas qu'il y ait de bonnes réponses. Hein. Je pense que c'est oui ou non ou les deux en fonction des personnes. Je suis curieuse d'avoir toi. Ton ressenti, ton vécu, et puis aujourd'hui, tu fais toujours quelque chose que t'adores, donc que t'as transformé sur un métier différent, mais d'avoir un peu ton retour d'expérience sur ce côté, moi j'appelle ça les métiers tête-main-cœur, mais d'autant plus que tu peux faire des choses très manuelles, bon, avec le son particulièrement, que c'est quelque chose de passion, et puis quand même où il y a pas mal de réflexion intellectuelle derrière. Donc curieuse d'avoir ton retour d'expérience sur justement le métier passion, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, j'ai toujours fait des métiers qui me passionnaient.
Préceptes de ton père.
J'ai suivi les préceptes de mon père. Alors, inconsciemment, très sincèrement. Tout ça, je l'ai réalisé. J'avais du retard à l'allumage, en fait. Ce que mon père m'expliquait quand j'avais 15 ans, je l'ai compris à 25 ans. Aujourd'hui, je percute plus vite quand même. Mais quand j'étais gamin, j'étais vraiment un gosse, quoi. C'était terrible. Alors, soit j'avais une passion et je voulais faire le métier, ingénieur du son, soit je faisais par hasard. Parce que l'opportunité, parce qu'il fallait que je bosse, je faisais le métier de commercial en informatique. Et puis là, je me suis c'est en rentrant dans le métier que je me suis passionné pour le métier. C'est pas en cherchant cette passion. Mmh. Et donc, cette expérience a été importante, surtout que j'avais été mais alors pas du tout passionné par les études. Et mon analyse, alors c'est, là aussi c'est totalement inconscient, aujourd'hui c'est réfléchi, c'est mûri parce qu'il y a le recul, mais la passion qu'on a pour son métier, c'est un élément qui est déterminant, qui est fondamental. Mmh. Et le gros défaut qu'on a dans le système français, dans l'éducation nationale en France, c'est de ne valoriser que les métiers intellectuels.
Ouais.
Et ça, c'est une erreur magistrale. Parce que les métiers manuels sont aussi valorisants que les métiers intellectuels. Il ne s'agit pas de faire une hiérarchie de ce qui est valorisant ou pas, mais il y a une reconnaissance sociale dans les métiers intellectuels qu'il n'y a pas dans les métiers manuels. Et ça, je trouve ça très, très regrettable. Vous regardez les métiers du compagnonnage. Moi, je suis fan du compagnonnage. Je trouve que ce sont des gens qui sont passionnés par leur métier. Ils ont envie de transmettre leur savoir. Ils ont envie de faire que les élèves qu'ils vont former, que là où ils sont tuteurs, ils essayent de former des personnes qui vont être meilleures qu'eux, en fait. Ils ne cherchent pas à avoir le monopole du savoir. Alors que dans le système scolaire, il y a un peu une compétition où ce qui compte, c'est d'en savoir plus que l'autre. Et si je peux faire un peu de rétention d'informations, je vais en faire un petit peu. Et donc, j'ai vraiment... La passion est pour moi un élément déterminant. Au point que, quand je regarde autour de moi, je m'aperçois que toutes les personnes qui sont passionnées par leur métier, alors je ne dis pas que les choses sont faciles, hein, mais toutes les personnes qui sont passionnées par leur métier, eh bien, elles ne vont pas travailler à reculons, bien évidemment, mais que leur vie privée se déroule assez bien, d'une façon générale. Hein.
Ouais, ça veut pas dire qu'il y a une vraie corrélation entre les deux.
Ah, complètement. Et ce n'est pas parce qu'on a une vie, c'est pas parce qu'on a une vie personnelle avec un grand bonheur que tout le monde recherche, qu'on va avoir une vie professionnelle passionnante. Mmh. L'inverse, alors c'est une observation, hein, ça n'a pas valeur de statistique.
C'est ton expérience.
Les gens qui sont passionnés par leur métier, eh bien, leur vie personnelle, elle est passionnante, parce qu'ils savent faire en sorte que... rien n'est réfléchi, je veux dire, tout se fait naturellement, en fait.
Mmh. Toi, quelque chose que tu as beaucoup ressenti.
Alors que j'ai beaucoup ressenti, et qui a été déterminant dans l'orientation de mes enfants, dans l'orientation scolaire de mes enfants.
Ça, c'est hyper intéressant, on va en parler, parce que je pense que j'en ai pas d'enfant, donc j'ai pas le recul que tu as, mais je suppose que tout est chamboulé, parce que c'est qu'est-ce que je leur apprends, qu'est-ce que je transmets, sur quelle voie ou pas je mets mon enfant ou mes enfants. Est-ce que tu peux me raconter justement comment toi, ta réflexion de père, comment elle s'est déroulée d'un point de vue, qu'est-ce que je veux transmettre justement comme rapport au travail, rapport aux autres, rapport au monde, qu'est-ce que tu voulais transmettre à tes enfants, et du coup comment t'as façonné cette réflexion-là, comment tu as pris toute ton expérience passée, tout ce que t'avais déjà vécu avec toi, tes parents, avec tes différentes expériences professionnelles, etc., pour transmettre ce que tu viens de me dire à tes enfants.
Tu viens de dire prendre ton expérience passée, c'est un élément déterminant. Oui. En fait, on est tous naturellement, on va vouloir, avec ses enfants, les emmener dans une direction ou les accompagner ou les former sur des sujets qui nous ont plu et les écarter des sujets qui ne nous ont pas plu ou des expériences qui ne nous ont pas plu. Et donc, quand j'ai aidé mes enfants à trouver leur voie, je n'ai pas pensé à leur place. Je n'ai pas cherché à leur dire fais le métier dans beaucoup de familles. Les enfants font ou veulent faire le même métier que leur père. Un fils de médecin veut être médecin, un fils d'ingénieur veut être ingénieur. C'est un peu dans la caricature, mais c'est une tendance quand même que l'on rencontre assez fréquemment.
On va vers ce qu'on connaît.
On va vers ce qu'on connaît. Et puis le modèle du père ou de la mère d'ailleurs, parce que les enfants, on les fait à deux. C'est pas seulement le papa. Et Dieu sait si ma femme a eu une importance capitale dans l'éducation de nos enfants. Le modèle que j'avais en tête, c'était de dire à mes enfants, faites un métier qui vous plaise. Et moi, je vais vous aider à trouver le métier qui vous plaît, okay, sans aucun jugement de valeur de quoi que ce soit. Et pour te donner l'anecdote, j'ai trois enfants, Élodie, Thomas, Thibault. Le petit dernier, Thibault, il voulait être primatologue.
Qu'est-ce que c'est ?
Ce sont les spécialistes qui s'occupent des singes.
D'accord.
Particulier comme métier. Donc, il avait 12 ans quand c'est arrivé. Et c'était vraiment... pas je veux être pompier ou je veux être motard. Hein. C'était je veux être primatologue parce qu'il était passionné par ce sujet-là. Donc, j'ai cherché à rencontrer, à identifier les coordonnées. À l'époque, il n'y avait pas Internet et tout ce machin-là. À identifier une primatologue qui se trouvait être directrice du zoo de Vincennes. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué, voilà le contexte, mon fils est passionné par les singes, je voudrais qu'il puisse vous rencontrer pour que vous lui parliez de votre métier. Pourquoi ? Parce que le professionnel d'un métier sera nettement mieux placé que moi pour bien parler sûr de son métier que je ne le ferai. Et puis accessoirement, il n'y a pas de relation parent-enfant. Parce que quand on est dans une relation parent-enfant, il peut y avoir soit une adhésion complète à ce que dit le parent, ou un rejet complet à ce que recommande le parent. Donc il faut surtout ne pas vouloir être le modèle à suivre. Non pas qu'on ne soit pas un bon modèle, mais il faut que ce soit une tierce personne qui le fasse. Mmh. Donc quand Thibault a eu un intérêt pour le métier de primatologue, je lui ai fait rencontrer une primatologue. Et ça a été déterminant dans sa carrière.
Du coup, aujourd'hui, il est primatologue ?
Non, il n'est pas primatologue. il est ingénieur agro dans les pays tropicaux. Donc, il a travaillé pendant 6 ans à Madagascar. Il était génial. En contact avec les lémuriens. Il était très content.
Ah bah c'est génial. Et du coup, pour tes autres enfants, qu'est-ce que ça a donné ?
Alors, pour Thomas, il voulait être conducteur de char militaire. Aujourd'hui, il est officier dans l'armée de terre, dans la cavalerie, pour être précis.
Pour le char.
Alors, Élodie, c'est le cas contraire. Élodie, j'ai voulu l'orienter, compte tenu de ses affinités pour les activités sportives, ainsi de suite. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu ailles dans le tourisme, c'est ce qui te conviendra. On l'a guidée, pour ne pas dire, on l'a prise par la main pour qu'elle aille dans le tourisme. Elle n'a pas du tout accroché. Bon, elle a réussi à avoir des diplômes. Et puis finalement, elle adore s'occuper des enfants. Elle a fini par suivre une formation et passer le concours pour devenir professeur des écoles. Aujourd'hui, depuis 5 ans, elle est professeur des écoles. Et mes 3 enfants, Élodie inclus, s'éclatent complètement dans leur métier. Ils sont bien dans leur tête, ils sont bien dans leurs bottes. Et leur vie personnelle se déroule bien.
Et du coup, c'est vraiment un précepte, ce qui est intéressant, parce que moi, ce que j'essaye à mon humble échelle de faire avec ce podcast, c'est un petit peu juste de donner d'autres exemples qui ne sont pas du tout à l'échelle d'aller rencontrer quelqu'un qui... Mais ça permet au moins de planter des premières graines, de voir des choses qu'on ne connaît pas et d'avoir juste des histoires de vécu, de partage d'expérience, de en fait, ça ressemble à quoi mon quotidien. Et moi, ce que j'essaye d'insuffler ou en tout cas de permettre, c'est simplement de se dire « Ah, ça me parle ». Ça me parle pas, ou cette personne, elle m'inspire pas du tout, mais son métier, je trouve ça trop bien. Du coup, pourquoi, quel est le désalignement et où est-ce que je me mets moi? Et je pense que c'est exactement le conseil que je donne depuis qu'on a commencé. C'est l'étape d'après, c'est justement de s'y confronter. C'est de prendre son LinkedIn, parce que maintenant, il y a des outils un petit peu plus faciles, mais son téléphone aussi, pour en fait creuser des intuitions et puis aller au-delà de ce qu'on connaît. En fait, je pense que c'est ça qui est super important.
Que ce soit pour les parents ou pour les jeunes, quand ils sont dans leurs dernières années d'études et qu'ils sont en train de réfléchir au métier qu'ils veulent faire, c'est tellement facile aujourd'hui de rencontrer un professionnel qui fait le métier qu'ils aimeraient faire, ne serait-ce que pour le découvrir, qu'est-ce qu'ils ont à perdre ?
C'est ça.
Rien. Et surtout ne pas avoir de jugement de valeur sur un métier par rapport à un autre. Ça, c'est une erreur fondamentale.
Mmh. Mais du coup, ça me donne envie de parler de réussite et un petit peu de ce qu'on... de carrière et de ces mots un peu valises qu'on utilise, mais que moi j'ai particulièrement eu dans ma vie, puisque j'ai fait un parcours entre guillemets tout tracé du lycée à la classe préparatoire, à l'école de commerce, où il y a quelques grands métiers qui sont mis en avant et peu de place pour découvrir d'autres choses que ces familles de métiers très mises en avant, dont fait partie le métier de consultant. Mais consultant, en fait, ça veut tout et rien dire, donc c'était dur à l'époque de s'en rendre compte. Mais en fait, cette notion de réussite, du coup, toi, comment tu définirais aujourd'hui, comment tu me répondrais à la question est-ce que j'ai réussi ma vie et comment je réussis ma vie? Pour toi, c'est lié à quoi, du coup, compte tenu de ta réflexion sur l'éducation, sur le travail? Comment est-ce que tu répondrais à cette question?
Écoute, indéniablement, le bac est nécessaire. Je ne sais pas s'il est utile, mais il est nécessaire pour franchir des étapes. Mon fils Thomas, qui est militaire, il n'aurait pas pu briguer l'école des sous-officiers s'il n'avait pas eu son bac. Donc, c'est bien qu'il ait eu son bac. Moi, je n'ai pas mon bac, même si j'ai passé en VAE un BTS, parce qu'il me fallait un moment afficher bac plus 2. Alors, je suis bac plus 2 sans avoir le bac. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça.
C'est comme ça.
Et autant les diplômes n'ont pas pour moi d'importance, et en France on leur donne trop d'importance, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas de valeur, soyons précis. Hein. Mais le diplôme n'est pas la fin en soi. Il y a déjà beaucoup de personnes, pour ouvrir la parenthèse jusqu'au bout sur ce sujet, qui font leur carrière à partir du moment où ils ont leur diplôme. Et puisque je suis diplômé de telle école, ma carrière elle est toute tracée. Ben en fait, non, c'est là que tout commence, en fait. C'est seulement après le diplôme. Et le diplôme ne fait pas la qualité de l'individu. Et le diplôme ne fait pas les qualités d'un individu, notamment pour se mettre à son compte. J'ai vu beaucoup de personnes très bien charpentés intellectuellement, si je peux dire, par leurs études, vouloir se mettre à leur compte et aller à l'échec parce qu'il leur manquait des pignons dans la boîte de vitesse. Parce que quand on se met à son compte, il faut savoir tout faire. Hein. Faut produire ses services, faut faire la gestion, faut faire la veille, faut faire le commerce, faut faire le marketing. Je ne vais pas te décrire tout ce que tu fais en permanence.
Bah, complètement. Ouais. Mais du coup, pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Ce serait quoi avec le recul, du coup, tu transmets en tout cas un goût de ton travail au fur et à mesure de tes expériences, quelles qu'elles soient. Comment tu
réponds ? Le compagnonnage, c'est le modèle de référence pour moi. Quand tu visites le musée du compagnonnage à Tours, et quand tu regardes des vidéos éventuellement sur le compagnonnage, leur objectif, c'est d'atteindre la perfection. Quel que soit le métier que l'on fait, il faut essayer d'atteindre la perfection. Alors, on n'y arrive jamais parce qu'on a toujours un sujet d'insatisfaction. Mais typiquement, pour la réalisation de vidéos, puisque c'est un sujet sur lequel je forme les gens, la première vidéo que l'on peut faire à finalité professionnelle, elle va avoir certaines qualités, mais elle sera moins bonne que la dixième, qui sera moins bonne que la centième. Donc, c'est par la pratique que l'on va apprendre. Et toujours chercher à se perfectionner et à atteindre le graal du modèle de la réalisation idéale, que l'on soit pâtissier, menuisier, ingénieur... Peu importe, c'est ça qui va faire qu'on va être satisfait de son métier et qu'on va réussir.
Complètement. Complètement, et j'aime beaucoup, je te partage ça et je partage ça à nos auditeurs. Pour ceux qui avaient entendu mon échange avec Samuel Durand, qui est du coup l'auteur, un de mes amis, qui a produit deux documentaires maintenant, sur le futur du travail. Et donc je suis allée voir son deuxième film hier soir, au Grand Rex, c'était une soirée géniale, qui pose la question de pourquoi est-ce qu'on travaille. Il essaye de répondre à cette question au fil de son argumentaire, et je pense que vous pourrez découvrir le documentaire sur différentes plateformes de streaming, notamment Spicy, je sais, peut-être d'autres par la suite. En tout cas, je vous invite à le voir, ça pose pas mal de bonnes questions. Mais donc, il met surtout en avant cette question de l'artisanat et de l'importance en fait, de remettre les valeurs de l'artisanat au cœur du travail, c'est-à-dire l'autonomie, la créativité, pas forcément utiliser ses mains, qui est le premier sens un peu de « on travaille du bois », etc., etc. Mais en fait, c'est les valeurs qui vont derrière, et du coup, le compagnonnage, à certains égards aussi, va dans cette mouvance-là, et je trouvais hyper intéressant ce côté... En fait, c'est pas une question d'utiliser ses mains ou de faire des choses dont on voit la réalisation très concrète, mais c'est ce que ça veut dire derrière.
Le modèle du compagnonnage, il commence à être utilisé dans les écoles où on forme à des métiers intellectuels, comme les écoles d'ingénieurs. Alors, je ne sais pas s'ils les appellent des compagnons, mais un tuteur, c'est le principe du compagnonnage. C'est la transmission de la compétence, la transmission des savoirs. Donc, ça s'applique à tous les métiers. Il n'y a pas de métier qui échappe à ce principe. Si on laisse un gamin qui sort de l'école, quel que soit le diplôme qu'il ait, tout seul pour faire son métier, s'il n'a pas un tuteur qui va lui montrer la voie, il ne va pas y arriver.
C'est clair. Et ça m'intéresse parce que tu m'avais parlé en amont de l'importance pour toi qu'ont eu certains mentors, certaines personnes clés dans ton parcours qui t'ont guidé, et tu vas m'en dire plus. Mais on parle de tuteur, on parle de compagnon, donc forcément il y a cette question du mentor qui revient. Qu'est-ce que, déjà toi, est-ce que tu en as eu? Je sais que oui, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Et puis pourquoi tu penses que c'est très important? Quelles influences ils peuvent avoir? Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui nous écoutent?
Alors, j'ai eu la chance, par l'éducation que j'ai reçue de mes parents, d'aller naturellement vers les gens qui me font progresser, plutôt que ceux qui m'entraînent au fond de la fosse. Et là aussi, ça n'a pas été réfléchi ni pensé. C'est le hasard des rencontres. Et puis, j'étais attiré par les personnes qui me tiraient vers le haut et non pas par les personnes qui me tiraient vers le bas. Et la première personne qui a eu une influence très forte pour moi, c'est un camarade d'école à l'EBTP de Vincennes. On était dans l'école du bâtiment, le fameux métier du maîtré.
Oui.
J'ai rencontré ce garçon, Jacques Crespi, qui était passionné de littérature. Et les soirs on était internes tous les deux, le soir, j'avais pas envie de bosser à l'étude, on se mettait dans un coin et il a pris le temps, alors ça a duré plusieurs mois, de m'expliquer dans le détail Le Petit Prince.
Wow.
Je peux vous dire que à 16 ans, à l'époque c'était les années 70, le monde des hippies, patin couffin, à 16 ans, s'intéresser pour Le Petit Prince avec un camarade qui me passionnait pour le sujet, c'était un peu atypique quand même. Mais c'est ce qui m'a fait découvrir l'importance du français et toutes les nuances du poids des mots. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai plaisir à écrire sur mon blog et je m'éclate quand j'écris un article. C'est l'origine, la genèse de ma passion pour le français, c'est lui qui me l'a transmise. Ça a été mon premier mentor. Alors, je n'en ai pas eu des cinquantaines, hein, mais je vais t'en citer un ou deux autres qui ont une importance forte. Un autre garçon, c'est plus récent, qui s'appelle Jean d'Artigues, qui malheureusement est décédé. C'est un ami consultant qui était consultant en communication et qui a eu une formation de journaliste. Il a été malheureusement atteint de la maladie de Charcot et ça a duré 10 ans. La maladie de Charcot, généralement, ça dure 2 ou 3 ans. Il a réussi à tenir 10 ans parce qu'il avait tous les jours envie de faire quelque chose de nouveau. Il a dit, la maladie ne m'aura pas. Je ne vais pas me laisser avoir par la maladie. Et il a écrit un livre que je recommande à tous ceux qui auraient besoin d'un petit coup de remontant. Lisez le livre de Jean d'Artigues, « Chaque jour est une vie ». Et vous allez comprendre qu'en lisant son livre, que certaines personnes comme Jean sont confrontées à des défis tels que on se demande comment ils font pour les surmonter. Et Jean avait une passion. Il voulait traverser à la voile l'Atlantique. Et il a emmené avec lui, il a constitué un équipage qu'il a emmené alors qu'il était atteint de la maladie de Charcot depuis quelques années, donc avec un bateau médicalisé, tout ce qui va bien, et il a traversé l'Atlantique. Ça a été une épreuve hein, pour les personnes qui l'ont accompagné. Ils étaient 5, il y avait un kiné, un infirmier, un médecin et deux aguerris, deux bretons aguerris de la voile. Il est revenu, mais il avait la banane. Une banane gigantesque. Il était épuisé. Étaient tous épuisés parce qu'ils ne pouvaient pas bouger. Hein. Oui. Donc il fallait pour lui faire sa toilette, il fallait le porter. 1m95, plus de 100 kilos.
Dans un bateau en pleine mer.
C'était chaud quand même. Enfin, Jean d'Artigues, c'est un garçon qui était pour moi, qui a une importance extrêmement forte. Non seulement parce qu'on se passionnait tous les deux pour la communication, mais en plus, j'avais qu'une envie, c'était de l'aider à réaliser ses rêves. Modestement. La troisième personne qui a une influence sur moi, c'est Marie-France Blanco, créatrice du Relais Enfants Parents, dont je suis bénévole depuis 20 ans. Le Relais Enfants Parents, c'est une association qui a pour but de faciliter la relation enfant-parent entre des enfants et leurs parents qui sont incarcérés. Donc on accompagne des enfants dans des établissements pénitentiaires. Et là, ça m'a ouvert les yeux sur un monde que je ne connaissais pas. Pour moi, un prisonnier, il fallait qu'il paye doublement sa dette vis-à-vis de la société, c'est-à-dire qu'il fasse son séjour en prison, et puis après, une fois qu'il en sortira, ben, je n'allais pas lui donner un coup de main pour se réinsérer dans la société. Et quand j'ai rencontré différents papas et mamans dans différents établissements pénitentiaires, j'ai compris que faire un séjour en prison, c'est une sacrée épreuve. La justice a rempli son rôle, c'est pas à moi de juger ce qu'ils ont fait ou pas. Mais je peux vous assurer que quand vous accompagnez des enfants et qu'ils vous font confiance pour reconnaître leurs parents comme étant un papa ou une maman et non pas un prisonnier, eh bien, ils savent vous le remercier avec un sourire qui est gigantesque. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Et merci Marie-France Blanco, créatrice du Relais Enfants Parents, de m'avoir permis de découvrir ce monde. Ce qui fait qu'en fait, sur ma palette sociale, ben je rencontre des gens qui sont au plus bas de l'échelle, les prisonniers, et puis d'autres personnes qui sont au Nirvana, polytechniciens, énarques. Et avoir une vision de cette France très éclectique est très enrichissant.
Oui, c'est clair. Cette question du mentorat, je pense que toi, tu l'as vécu, et je pense que tu l'as... Des livres aussi, d'autant plus si tu t'investis. Qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui commencent justement les premiers pas de leur vie, de poser les fondations de leur vie indépendante, peut-être, quand on quitte le nid familial, d'autant plus dans un contexte un peu plus, enfin, très difficile à plein d'égards, par la crise sanitaire, les crises politiques qu'on connaît, crise environnementale, où on peut être beaucoup plus angoissé, beaucoup plus... troublé, et puis peut-être on peut quitter moins vite le berceau familial aussi. Enfin, plein d'éléments qui font que c'est peut-être, pour ceux qui nous écoutent, très difficile. Le mentor peut être une solution. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour trouver une personne qui va nous accompagner, pour demander de l'aide à ceux qui le proposent, tes conseils?
Point important, quand on a 20 ans, on a une capacité de créativité et d'absorption qui est absolument phénoménale. Je vais te citer l'exemple de chanteurs bien connus, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Serge Lama, Jacques Brel. ils ont une créativité, les Beatles, les Rolling Stones, une créativité entre 20 et 30 ans qui a été absolument phénoménale. Après, non pas qu'ils aient plus été créatifs, mais ils ont surfé sur la vague de leur succès de leurs 20 ans, en fait. Eh bien, quand on est jeune, sorti de l'école, vous avez une capacité de créativité pour l'entreprise qui est absolument extraordinaire. Mmh. Et je ne comprends pas que les entreprises n'utilisent pas plus les jeunes pour leur capacité de créativité. Mmh. D'accord ?
Donc moi non plus.
La première chose, c'est que quand on a 20 ans, il faut qu'on se lâche, quoi. Il faut faire tomber les murs, il faut faire tomber les barrières. Dans les entreprises, alors, il ne faut pas non plus vouloir arriver en conquérant, je vais vous montrer comment il faut bosser. C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement, l'entreprise, malheureusement ou heureusement, il faut composer avec les autres. Mais vous avez une capacité, et je l'ai été quand j'étais au Club Méditerranée, de n'importe quelle situation, j'avais toujours l'idée qui me permettait de sortir d'une situation catastrophique. Et quand vous êtes confronté à un ouragan aux Bahamas, faut trouver le moyen pendant une semaine de distraire les GM. Et là, il faut faire preuve de créativité parce que les conditions sont un peu particulières. De façon extraordinaire, les gens qui ont passé cette semaine avec l'ouragan sont ceux qui ont gardé le meilleur souvenir du Club Med, ce qui est quand même paradoxal. Dans l'entreprise, c'est pareil.
Oui, donc grande confiance.
Grande confiance, et puis laisser libre sa créativité, son imagination. Pourquoi, quand on est ingénieur, c'est entre 20 et 30 ans, ou 25 ans et 30 ans, qu'on va avoir les plus grosses capacités de créativité? C'est tout simplement parce qu'on a la matière grise qui fonctionne super bien, qui fonctionne très très vite. Et en plus, avec les études, cette matière grise, elle a été entraînée par le jeu des écoles de préparation, des mathématiques, des différentes matières que l'on peut étudier, la philosophie, que sais-je encore. Ce que je n'ai pas fait, mais autant je ne regrette pas de ne pas avoir de diplôme, autant les études, ça, je devrais les refaire, je ne m'en priverai pas. Il y a une chose qui est importante aujourd'hui, alors le contexte, il faut quand même l'admettre, Covid plus Ukraine, c'est chaud quand même, hein. J'aimerais pas être à leur place, mais il faut qu'ils se lâchent et qu'ils aillent découvrir le monde. Mmh. Moi j'étais dans des conditions paradisiaques, Club Med, mais le fait de parcourir le globe m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'il n'y a pas que la baguette et le jambon beurre français. Il y a tout un tas d'autres cuisines et tout un tas d'autres cultures qu'il faut découvrir. Et quand on revient de ce périple, pendant un an globe-trotteur, ça permet de pouvoir, avoir des idées, avoir une ouverture d'esprit, une curiosité. J'ai entendu ce matin un des podcasts que tu as fait dernièrement. Alors, je ne me souviens plus de la personne que tu as interviewée ou avec laquelle tu as eu un entretien, mais elle soulignait le fait qu'il faut être curieux. Et je confirme que la curiosité, c'est une qualité majeure, si ce n'est pas la première des qualités à avoir.
Complètement. Et puis, je pense que ce n'est pas seulement voyager à l'étranger. Comme tu disais, c'est aussi dans son propre écosystème. Comme tu le disais, tu côtoies des milieux et des personnes de parcours complètement différents. Et c'est ça aussi qui te permet d'avoir une vision différente de qui tu es, du monde, justement en l'enrichissant de toutes ces expériences de vie, de tous ces parcours. En fait, quand on ne connaît pas, on ne sait pas. C'est normal. Mais c'est aussi ça qui nourrit une réflexion, une confiance en soi, un optimisme, une joie pour la suite aussi.
Il peut même y avoir des personnages historiques qui peuvent nourrir notre réflexion. Moi, j'en ai un que j'ai découvert tardivement, le maréchal Vauban, que je connaissais comme tout le monde comme étant un bâtisseur de fortifications.
Moi, je connais les citadelles.
Les citadelles Vauban, voilà, ça, tout le monde les connaît. Mais Vauban avait une énorme qualité, c'est que déjà, c'était pas un homme de cour, c'était un militaire, un ingénieur et un hydraulicien. Et il avait comme responsabilité de protéger le fameux précaré de Louis XIV. Et pour ça, il fallait qu'il bâtisse des fortifications tout autour de la France, hein, le précaré. Donc il a parcouru la France en long, en large et en travers, et il a une connaissance de la société française, c'était un anthropologue en fait, il avait une connaissance de la société française exceptionnelle. Mmh. Et tu ne t'imagines pas le nombre de conseils, il était consultant de Louis XIV en fait, hein, le nombre de conseils qu'il a donné à Louis XIV. Comme par exemple la création de la dîme royale, un impôt équitable pour tous, qui n'a pas été accepté par Louis XIV. Ou le fait de ne pas abolir l'édit de Nantes, parce que les protestants allaient quitter la France, et les protestants c'était une partie de l'intelligence française. Mmh. Et Louis XIV n'a pas suivi son conseil, et Louis XIV, à cette époque, a perdu beaucoup de forces vives intellectuelles françaises. Et quand on regarde la vie de Vauban, enfin moi j'ai lu, il y a eu deux biographies qui ont été publiées par des historiens, ça a été une nourrice spirituelle extraordinaire. Mmh. Et aujourd'hui, je ne peux pas me passer de ne pas regarder une émission sur Vauban. D'ailleurs, il y en a eu une avant-hier, je crois.
Ah bah, avec plaisir pour les redécouvrir.
Sur France 3, avec, comment s'appelle-t-il
Le chroniqueur de France 3.
Le chroniqueur de France 3. Bref, Vauban... Un mec exceptionnel. Et aujourd'hui, il serait avec nous, ce serait un Premier ministre de premier plan.
Complètement. C'est une bonne question aussi de qu'est-ce qu'on regarde en arrière, de qui on s'inspire et qui sont en fait les... On dit le rôle modèle, j'ai envie de trouver un mot français, mais je ne l'ai pas. Mais en tout cas, les personnes qui nous inspirent, qui nous guident. Et moi, c'est une question pour te partager cette anecdote. Donc, comme le savent ceux qui nous écoutent depuis longtemps, nous, on a fait une spécialisation en entrepreneuriat avec Carla, à qui on tient vocation, en fin d'études. Donc, on avait cette intuition qu'on voulait créer, qu'on voulait monter nos sociétés. Et donc, on a fait cette formation-là. Mais on avait une vision très biaisée, en fait, de l'entrepreneuriat. Une vision qui est celle des médias, de la Startup Nation, de Macron, de Station F à Paris... En tout cas, de ces signaux d'une création d'entreprise pour l'hypercroissance, pour aller vite, pour lever de l'argent. Et puis moi, mes expériences professionnelles avaient été là-dedans, donc d'autant plus. Et en fait, à un moment, on s'y retrouvait pas. Pourtant, on essayait de cocher les cases de ce chemin-là, donc trouver un incubateur, etc., etc. Et à un moment, on était assez malheureuse, finalement. On a eu du mal à se l'avouer. Et puis finalement, on s'est regardé un peu en face. On s'est dit, OK, en fait, là, on cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à prouver? Qu'est-ce qu'on cherche à créer? Et en fait, tout ce qu'on est en train de poser comme fondation de début de boîte... Pourquoi, en fait? C'est quoi l'objectif à la fin? Et je pense qu'on l'avait un peu perdu de vue. Et on s'est dit, en fait, si on regarde tous les entrepreneurs qu'on connaît, ceux qui sont dans les médias, dans le passé, aux États-Unis, à travers le monde, en fait, lequel on a envie d'être ou laquelle on a envie d'être? Et en fait, on a eu beaucoup de mal à répondre à cette question. Pourtant, il y en avait plein des exemples, justement parce qu'on n'avait pas fait cette introspection, en fait, dans les modèles qui sont proposés. Finalement, qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce que moi j'ai envie de tracer comme chemin? Est-ce qu'il y a des choses qui m'inspirent? Et en fait, il y en avait très peu. Et je dis pas que ce qu'ils font est pas bien, c'est juste que ça nous ressemblait pas. Donc ça m'interpelle aussi, ça me rappelle cette anecdote, ce que tu me partages.
Le meilleur modèle, c'est soi-même.
Bien sûr.
C'est pas l'autre. On peut avoir un modèle qui fait référence, qui va nous inspirer, mais ce qui va faire notre personnalité. C'est l'agrégation de toutes les personnes qui ont nourri notre réflexion.
Complètement.
Moi, Jean-Philippe Desranleau, j'ai un petit bout de Vauban, j'ai un petit bout de Jacques Crespi, j'ai un petit bout de Michel Vol, j'ai un petit bout de différentes personnes qui ont eu de l'influence. Et je suis une personnalité, mais pour chacun, c'est la même chose. Et l'erreur voudrait de faire un copier-coller en disant je veux être tel professionnel de la cuisine ou tel professionnel Georges Blanc, chef étoilé absolument extraordinaire. Mais vouloir faire comme Georges Blanc, il y a du boulot, hein.
Bon
et
courage.
Et puis là, sa personnalité. Chaque chef de cuisine a sa personnalité. Bien là, dans la vie professionnelle, c'est pareil.
Complètement. Et j'ai envie d'utiliser maintenant ta nouvelle casquette de consultant formateur pour te poser quelques questions de conseils pour ceux qui commencent à s'orienter aujourd'hui. Donc, tu m'as déjà partagé plein de super idées et puis super questions à se poser. Est-ce que avec cette nouvelle carrière, profession que tu exerces aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aurais envie de partager, que tu observes toi avec tes élèves, on peut les appeler tes élèves, avec tes élèves de questions que tu penses qu'il faut se poser, de déclics que tu peux observer, ou tu as envie de partager quelques éléments pour accélérer ce chemin-là?
Pour ceux qui voudraient se mettre à leur compte, tout profession confondue, y compris à commencer par celui que je connais le mieux, le métier de consultant ou de consultant formateur. Alors, première chose, il faut être multitâche. Il faut produire son service, il faut faire la veille dans sa spécialité, il faut administrer, gérer son entreprise, il faut faire le commerce et le marketing de ses services. Alors, vous trouverez toujours des personnes qui, sans faire le marketing et le commerce, ont un grand succès, parce qu'ils ont une forte personnalité, parce que les circonstances leur ont donné beaucoup de visibilité. Mais dans la majorité des cas, il faut remonter les manches et bosser et pas ménager sa peine. C'est bien connu, hein, les consultants, ils sont aux 35 heures. Aux 35 heures de sommeil par semaine. Donc, il faut en avoir conscience. On travaille 7 jours sur 7. Et quand on est passionné, ben on compte pas ses heures et c'est pas trop un problème. Alors, faut aussi réserver un peu de son temps à sa vie personnelle et familiale. Moi, j'ai pas été très attentif à ça et aujourd'hui, avec le recul, je le regrette un petit peu. Toujours est-il que quand on se lance en tant que consultant, c'est pas le diplôme qui va faire votre réussite. Et il faut bien savoir que quand on quitte l'entreprise dans laquelle on était salarié, ou les entreprises, les métiers qu'on a fait en tant que salarié, on était un pignon dans la boîte de vitesse. Il y avait plein d'autres pignons qui étaient les autres personnes. On avait un rôle et on remplissait ce rôle.
Une expertise, en fait.
Une expertise. Quand on est consultant, on a toujours une expertise, mais
on doit avoir plein d'autres.
Il faut qu'on soit multitâche, il faut qu'on fasse tout, parce qu'il n'y a personne d'autre à qui le confier, en fait. Et ça, c'est fréquemment une source d'échec, en fait. Parce que les gens qui se mettent à leur compte n'ont pas réaliser toute la difficulté qu'il y avait. Ils s'imaginent, beaucoup se sont imaginés que leur compétence technique était une condition suffisante. Alors que la compétence technique, elle n'a pas besoin d'être extraordinaire, il faut qu'elle soit de bonne qualité, mais ce qui compte, c'est de savoir être multitâche. Et notamment, alors je vais faire une caricature, un polytechnicien qui négligerait le volet commercial de son activité en se mettant à son compte, ben il risque d'avoir des problèmes pour développer son business, en fait. Il faut qu'il ait un minimum de réflexes commerciaux, et puis de consacrer un peu de temps au développement de son activité.
Complètement. Et que ce soit d'ailleurs en indépendant ou en entrepreneur, quand on lance une structure, en fait, il faut porter toutes ces casquettes.
C'est évident. Alors, pour l'anecdote, anecdote qui n'en est pas une, je suis administrateur de start-up au sein de la porteuse de start-up qui s'appelle Alacrité, qui est basée à Lille. Je rencontre des jeunes qui sont passionnés. Mais souvent, ils ont une petite faiblesse quelque part. C'est-à-dire qu'ils ont souvent une compétence technique, ils ont souvent une passion, ils ont une bonne connaissance dans leur spécialité liée à leur cursus scolaire. Donc généralement, c'est ingénieur ou école de commerce. Mais la fonction... Alors, quand je dis école de commerce, c'est qu'entre école de commerce et faire le commercial, mais c'est deux choses différentes. Hein, on est bien d'accord. Et donc, la partie commerciale, c'est pas dans leur nature, en fait. Là, il faut vraiment les booster un petit peu pour qu'ils développent leur activité. Parce qu'ils peuvent avoir des bonnes idées. S'ils n'ont pas les qualités requises pour trouver leurs clients, la bonne idée, elle restera au placard.
Et pourquoi le faire, alors ? Pourquoi toi, tu conseilles de te lancer ? Enfin, pour quelle raison ? Pas alors, pourquoi, hein, je dis pas que... Et puis, on peut faire les deux dans une vie, évidemment.
Alors, il ne faut pas passer par le fait d'être à son compte pour réussir sa vie. Hein. On peut très bien rester salarié toute sa vie et puis faire avec passion son métier et réussir brillamment. Mais quand on a envie de se mettre à son compte, c'est sa boîte, c'est son truc, c'est ses tripes. C'est nous qui prenons le risque. Et puis, on est responsable de toutes les conneries qu'on fait. Faut pas surtout croire que quand on est confronté à un échec, dans 95% des cas, on est le seul responsable de cet échec.
C'est clair.
Donc quand on se met à son compte, faut en avoir conscience de ça. Mmh. Et puis souvent, quand on se met à son compte, j'ai fait cette erreur, on part sur une passion et on pense que ça va être la condition suffisante. Malheureusement, les dures réalités nous remettent les idées en place rapidement.
Écoute, très riche comme témoignage, tout ce que tu me partages. Je pense que de mon côté, on a fait pas mal le tour des questions que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, notamment ton rapport au travail, ton rapport à ton parcours et aux différents choix que tu as faits, comment tu les as... Et surtout, les conseils que tu avais à partager à un jeune toi ou de ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu aimerais ajouter, que tu aimerais qu'on aborde ensemble pour terminer ?
Alors, il y a une question que tu m'as posée à laquelle je n'ai pas complètement répondu tout à l'heure. C'est quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait besoin d'un coup de main ? Alors, la question m'a été fréquemment posée au point que j'ai écrit un article sur mon blog qui n'a rien à voir avec mon métier.
Je mettrai le lien de ton blog dans la description de l'épisode.
Voilà.
Comme ça.
Alors, mets le lien avec cet article particulièrement qui est Lettre ouverte aux jeunes en recherche de stage. Parce que beaucoup de jeunes qui recherchent des stages, c'est pas facile de trouver un stage en entreprise, hein, compte tenu d'un certain nombre de conditions. Donc, plutôt qu'à chaque fois répéter pendant une heure le même discours, j'ai écrit un article dans lequel j'explique comment faire. Et là, je vais pas lire l'article, hein, il suffit qu'ils aillent voir cet article. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de ne pas hésiter, alors j'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus, de ne pas hésiter à aller frapper à la porte, à aller contacter des professionnels qui font le métier qu'on souhaiterait faire, ou sur lequel on s'interroge. Même si on a simplement une idée, tiens, ce métier, est-ce qu'il pourrait être intéressant? J'ai envie de le découvrir. Il ne s'agit pas d'aller passer une semaine de stage en entreprise pour découvrir le métier. Il faut simplement prendre le téléphone et téléphoner à la personne. Ce matin, j'ai une femme de, qui a fait déjà une vingtaine d'années de carrière professionnelle. On s'est croisés sur LinkedIn. Le hasard a fait qu'on a eu l'occasion d'échanger sur LinkedIn. Je lui dis... Si vous avez besoin d'un coup de main pour alimenter votre réflexion, n'hésitez pas à m'appeler. Elle m'a appelé ce matin, on a discuté pendant une heure. Ma petite fierté, c'est que je lui ai remonté le moral parce qu'elle avait le moral un peu dans les chaussettes. N'hésitez pas, enfin, vous le sentez de toute façon, quand vous voyez la façon dont les gens s'expriment sur les réseaux sociaux est révélateur de leur qualité sociale. Je ne peux pas avoir meilleur argument ou meilleure clé pour identifier ceux qui peuvent vous être utiles.
Puis au pire, ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils ne peuvent pas, mais c'est,
exactement.
Réponse.
Mais qu'est-ce qu'on a à perdre d'aller frapper à la porte? Rien. Et si vous tombez sur quelqu'un qui a à cœur de partager le plaisir qu'il a à faire son métier, de le faire connaître, et puis d'avoir un spectateur, entre guillemets, parce qu'on est... Moi,
S'il y a une chose que j'ai appris, c'est que les gens aiment bien parler d'eux.
Exactement. Exactement. On aime bien parler de ce qu'on fait, de ce qui nous passionne. Donc, allez-y, frappez à la porte, allez voir les gens qui peuvent vous aider à trouver votre voie.
Super mot de la fin, merci beaucoup.
Merci, Jasmine.
Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Jasmine Manet et tous les dimanches à 18h, un nouvel épisode sort sur le podcast. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes audio, nous laisser plein de petites étoiles sur Apple Podcasts et surtout, surtout, en parler autour de vous. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Enfin, rendez-vous sur Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours à vocation.co. C'est là que je suis le plus active. À la semaine prochaine !